Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministère des Affaires étrangères confirme toujours les citoyens indonésiens victimes d'Ethiopian Airlines. Java Occidental aura un train rapide de l'ASEAN en 2021. Kota Waringin Timur représente le Kalimantan Central au Carnaval de la Mode de Jember. L'organisation non-gouvernementale fournit une assistance à la gestion des déchets à Banyuwangi. Des investisseurs suisses collaborent avec Inka pour construire une usine de train à Banyuwangi. La ministre Susi invite les Émirats Arabes Unis à lutter contre la pêche illégale. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministère indonésien des Affaires étrangères coordonne toujours avec l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba, en Éthiopie, liée à l'identité de la citoyenne indonésienne victime de la chute de l'avion de la compagnie aérienne éthiopienne dimanche, heure locale. Selon Republika Online, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, à Jakarta dimanche, a déclaré qu'il y avait au moins 35 pays dont les citoyens avaient été victimes de l'accident d'avion. À l'heure actuelle, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba procèdent à la confirmation de l'identité de la victime du citoyen indonésien. L'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba avait précédemment obtenu des informations du bureau de la compagnie aérienne éthiopienne sur l'assistance d'une victime d'un citoyen indonésien dans l'accident d'avion. La ministre des entreprises appartenant de l'État, Mme Rini Sumarno, a déclaré qu'en 2021, Java Occidental aurait un train rapide dans l'ASEAN opérant de Jakarta à Bandung dans l'ouest de Java. Ceci a été dit par la ministre Rini Sumarno lors de la FANWOC du 21e anniversaire des entreprises d'État à Bandung dimanche, cité par Antara. Selon la ministre à Java Occidental, le président Joko Widodo a encouragé la réactivation des lignes de chemin de fer qui ne fonctionnent plus. Par conséquent, il espère qu'en 2021, les entreprises d'État pourront être plus enthousiastes à développer le pays. La région de Kota Waringin Timur a obtenu une grande confiance pour représenter le Kalimantan Central à l'événement mondial, à savoir le Carnaval de la Mode de Jember, qui s'est déroulé à la Régence de Jember dans la province de Java Est du 30 juillet au 4 août. Le chef du Bureau de la Culture et du Tourisme de Kalimantan Central, M. Guntur Talajan, à Sampit, a déclaré dimanche que Kota Waringin Timur a été choisi pour sa qualité comme le carnaval ethnique de Sampit. Comme rapporté par Antara, le carnaval de la mode de Jember est un défilé de la mode avec la plus longue promenade pour le défilé de la mode atteignant 3,6 km. L'événement annuel qui est la reine de la création culturelle des enfants de la nation a été mondial et toujours attendu par les touristes étrangers. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'organisation non-gouvernementale mondiale financée par la Norvège et l'institution commerciale autrichienne, Borealis Systemic, continue de fournir une assistance pour la manutention et la gestion des déchets marins dans la région de Banyuwangi, l'est de Java. Dans une déclaration écrite reçue par Antara à Banyuwangi samedi, André Kunchoro Yakti, responsable de la distribution de ce projet systémique, a déclaré qu'au cours de la première année, la gestion des déchets était concentrée sur le village de Tembokrejo, au sous-district de Munchar, car ce village avait déjà l'installation de traitement des déchets intégrés, de la réduction, la réutilisation et recyclage. Dans la gestion des déchets, systémique implique des entreprises appartenant à des villages en tant que gestionnaires de déchets et ils sont formés pour optimiser le système de transport, de collecte au traitement des déchets. Le fabricant de chemin de fer suisse, Stettler Breuer, établit une coopération avec l'entreprise d'État PT Inca pour créer une entreprise conjointe afin de construire une usine de chemin de fer à Banyuwangi avec une valeur d'investissement de 210 millions de dollars américains. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Berne, reçu à Jakarta samedi, indiquait que Stettler Rail et PT Inca produiraient des trains régionaux, des véhicules légers sur rail et des trains en ville ou en métro. La construction a été commencée en 2020 avec une capacité de 250 unités par an et atteindra 500 unités en 2025 et 1000 unités par an en 2030. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujiasuti, a invité le gouvernement des Émirats arabes unis à éradiquer conjointement la pêche illégale. Dans un communiqué de presse publié samedi, la ministre Susi a invité les Émirats arabes unis à aider l'Indonésie et d'autres pays à sensibiliser le monde sur la question de la criminalité de la pêche transfrontalière. Pour cette raison, selon Mme Susi Pujiasuti, les Émirats arabes unis devraient participer activement à la communication de ces questions dans les forums mondiaux. Cela a été déclaré par la ministre Susi lors d'une réunion bilatérale avec Thani bin Ahmed Al-Zayed, le ministre du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis à Abu Dhabi récemment. À cette réunion, la ministre Susi a également exprimé son point de vue concernant la ratification de l'accord sur les mesures de port d'État, ce qui est considéré comme ne renonçant pas à réduire la pratique de la pêche illégale non déclarée et non réglementée, où la pêche illégale pendant le transbordement n'est pas interdite en haute mer. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voice of Indonesia. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La pêche illégale et la protection des richesses de la mer d'Indonésie ». La richesse des ressources marines de l'Indonésie, notamment des ressources de pêche extraordinaires qui n'ont pas encore été explorées au maximum, est inquiétante pour les pêcheurs d'autres pays. À cause de cela, ils entrent souvent dans les eaux indonésiennes pour pêcher illégalement du poisson. Vendredi 8 mars, le navire de surveillance des pêches appartenant au ministère des Affaires maritimes et de la pêche a arrêté un navire étranger qui voulait des produits de la mer sur territoire indonésien. Le navire avec le drapeau vietnamien a été capturé dans les eaux de la zone économique exclusive indonésienne à Natuna du Nord en raison de la pêche dans la zone de gestion de la pêche de la République d'Indonésie sans autorisation légale du gouvernement indonésien. De plus, il utilise des engins de pêche interdits en Indonésie, à savoir le type de chaloupe. Auparavant, le patrouilleur de la marine indonésienne KRI Tom 357 escortait 4 navires de pêche battant pavillon vietnamien soupçonnés de voler de poissons dans les eaux de Natuna. mais était bloqué par deux navires de surveillance des ressources halieutiques vietnamiennes. C'était les navires du ministère de l'Agriculture et du Développement des zones défavorisées vietnamiennes. C'est certainement très préoccupant. Pour cette raison, la ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Mme Susi Pujiastuti, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a adressé une protestation au gouvernement vietnamien. Le Vietnam est connu comme le pays le plus pêcheur dans les eaux indonésiennes. Il est évident à partir de 888 navires étrangers qui ont été écoulés depuis 2014. 276 d'entre eux sont le navire battant pavillon du Vietnam. Bien sûr, non seulement le Vietnam, mais aussi de nombreux navires battant pavillon d'autres pays, tels que la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et la Chine, qui sont capturés. Pour protéger la richesse naturelle de la mer indonésienne et éviter que la même chose ne se produise, il est certainement nécessaire d'encourager les patrouilles, y compris les patrouilles intégrées entre le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche et la Marine ou la police de l'eau. C'est le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Monsieur Alexander Fleming était un scientifique écossais qui a réussi à trouver la pénicilline, un type antibiotique produit par le champignon Penicillium notatum. La substance de cette découverte peut être utilisée pour tuer de nombreux types de bactéries nocives pour les corps humains. Il a reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1945 avec Ernst Schön et Howard Florey. Il est décédé à Londres le 11 mars 1955 à l'âge de 73 ans. Le 11 mars 1966, la naissance de Super Semar. Le décret du 11 mars, surnommé Super Semar, était un mandat signé par le président de la République d'Indonésie, M. Sukarno, le 11 mars 1966. Il contenait des instructions du président au commandant du commandement de la sécurité des opérations et de l'ordre, le lieutenant général Suharto, de prendre les mesures nécessaires pour la qui était effectivement vulnérable à l'époque. L'un d'entre eux, en raison de l'impact du mouvement du 30 septembre 1965, Super Semar contenait des instructions pour que Suharto rétablisse la stabilité de la sécurité. Cependant, Super Semar est interprété différemment. Super Semar a fonctionné comme une lettre puissance qui est finalement devenue la légitimité de Suharto de prendre la direction de l'État à Sukarno. C'est le début de la naissance d'un nouvel ordre qui règne pendant plus de trois décennies. La République de la Lituanie est un pays du nord-est de l'Europe. La Lituanie est l'un des trois États baltes proches de la mer Baltique. La loi lituanienne sur la restauration de l'État ou la loi du 11 mars était une déclaration d'indépendance de la République socialiste soviétique, adoptée le 11 mars 1990, signée par tous les membres du Conseil suprême de la République de Lituanie, dirigé par Sajoudi. C'est la première fois qu'un État républicain et unitaire déclare son indépendance après la dissolution de l'Union soviétique. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Bebaskan aku dari semua masalah.
Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dan tertawakan harapan semua impian. Dalam kehidupan
semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dan tertawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan.
Semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu.
Dari sebuah senyuman dan tertawakan harapan.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Senyuman dan Harapan » chantée par Gak et de Offertune. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulé « La route à piège Trans-Sumatra pour accroître l'économie ». Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « La route à piège Trans-Sumatra pour accroître l'économie ». Le président Joko Widodo a inauguré vendredi dernier la route à piège Bakauheni Terbanggi Besar de 140,9 km. La route à piège est la plus longue en Indonésie. Le président a également inauguré en même temps le terminal et le quai exécutif de Merak et Bakauheni. Dans son discours, le président Joko Widodo a déclaré qu'il s'agissait de la première route à piège la plus longue qu'il ait officiellement ouverte. Cette route à piège serait reliée à la province d'Aceh en 2024. La route à piège Bakauheni du sud de Lampung à Terbanggi Besar au centre de Lampung est l'un des 24 segments de la route à piège de Trans-Sumatra qui reliera Lampung à Aceh. On estime que la longueur de la route à piège Trans-Sumatra atteigne 2765 km avec un coût d'investissement total de 476 trillions rupiah. Le président Joko Widodo espère que la construction de cette route à piège améliorera l'économie et accélérera la distribution de biens et de services vers et depuis Lampung. En outre, la construction de la route à piège peut déclencher l'entrée des investissements qui encouragent l'économie régionale. Le président a également déclaré que la construction de la route à piège à Lampung pour être achevé rapidement grâce au soutien du gouvernement régional. Par conséquent, il a apprécié le gouvernement provincial de Lampung pour son aide dans le processus d'acquisition de terres. Il espère également qu'un certain nombre d'autres routes à pied de Sumatra en construction pourront fonctionner immédiatement. Le gouverneur de Lampung, Emery de Ficardo, a également dit la même chose. Selon lui, l'ouverture de la connectivité via la route APS Trans-Sumatra ouvrira une nouvelle croissance économique dans la région de Sumatra. Il a ajouté que la route APS Bakauheni Terbanggi Terbesar fonctionnerait comme un système logistique national pour la distribution des marchandises et l'accélération de la croissance économique de Sumatra. Pendant ce temps, le vice-président du Comité économique et industriel national, Kain Arif Budimanta, a estimé que le développement de la route APS Trans-Sumatra est très stratégique car il fait partie du réseau routier asiatique. Selon Arif, la connexion de la route APS Trans-Sumatra avec le réseau routier asiatique augmentera la connectivité entre les pays d'Asie. De plus, les pays d'Asie du Sud-Est ont une vision de la connectivité d'ASEAN en 2025 pour lier et intégrer de manière globale les pays de la région. Ainsi, il espère que les exportations vers l'Asie deviendront plus fluides de sorte que la route APS Trans-Sumatra puisse stimuler la croissance économique nationale. Cerita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama.
Bersama, bagaimana harus kulupakan semua?
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Pemilik Hati, chantée par Calvin Jeremy. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Secrétaire, bonsoir, rencontrons-nous dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous inviterons à visiter le sud de Sumatra pour en savoir plus sur la pagode de l'île de Kemaro. Soyez avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. L'île de Kemaro est un petit delta sur la rivière Musi. Cette île est un lieu de loisirs bien connu de la rivière Musi. Ici, il y a la pagode Hokchingryo et le temple Bouddha qui sont souvent visités par les adeptes de Bouddha pour en culte ou en pèlerinage. En outre, l'île devient souvent un lieu de la mise en œuvre de l'événement Chap Gome à chaque nouvelle année lunaire. En outre, l'intérêt principal de l'île de Kemaro est la pagode à 9 étages qui domine au centre de l'île. La pagode a été construite en 2006 sur les côtés du raid Soshé de la pagode. Il y a une histoire qui décrit la légende de l'île de Kemaro. Du haut de la pagode, les visiteurs peuvent admirer la beauté de l'île de Kemaro qui est entourée par la rivière de Musi. La légende qui était écrite au rez-de-chaussée de pagode devient également une attraction touristique. La légende raconte une rencontre entre le marchand chinois Tan Bun An et une femme de Palembang, Siti Fatima, qui s'est terminée en mariage. Dans l'histoire de la légende, beaucoup de gens appellent cette île comme l'île de Mat. L'île se trouve à environ 10 km de la ville centrale de Palembang et à proximité du pont de Palembang. L'accès à l'île est facile car de nombreux habitants louent leur bateau du quai de pont d'Ampera à l'île de Kemaro. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Voice of Indonesia.
Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Ingin ku memang Maafkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.
Setelah sang song The Great Sa Kenang ang titule Maaf. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa semuanya, ou en langue française, c'est combien? Ensuite, je vais donner un exemple de conversation et un beau titre. Berapa semuanya, ou en langue française, c'est combien? Tony est avec son ami Eru au restaurant. Eru paye sa nourriture à la caisse.
Berapa semuanya?
Semuanya 130 ribu rupiah, Pak.
Oh ya, ini uangnya. Uangnya 200 ribu ya, Pak?
Iya.
Ini kembaliannya 70 ribu rupiah.
Terima kasih.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir berapa semuanya. En français, c'est combien? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Berapa semuanya? Berapa semuanya? C'est combien? Semuanya 130 ribu rupiah. Semuanya 130 ribu rupiah. En français, tout est 130 000 rupiah. Ini uangnya. Ini uangnya. En français, c'est l'argent. Uangnya 200 ribu. Uangnya 200 ribu. En français, l'argent est 200 000. Ini kembaliannya. Ini kembaliannya. En français, voici le changement. Ini uang kembaliannya. Ini uang kembaliannya. En français, c'est le changement. Ini kembaliannya, 70 ribu rupiah. Ini kembaliannya, 70 ribu rupiah. C'est le changement, 70 mil rupiah. Boleh saya minta bonnya? Boleh saya minta bonnya? En français, puis-je avoir la facture? Lorsque vous souhaitez connaître le montant total de la nourriture ou des biens à payer, vous pouvez poser des questions. Berapa semuanya? Berapa semuanya? En français, c'est combien? Si vous payez pour un serveur, vous pouvez demander une facture en disant Saya minta bon. Saya minta bon. En français, je demande une facture. Ou Boleh saya minta bonnya? Boleh saya minta bonnya? En français, puis-je avoir la facture? Avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Berapa semuanya?
Semuanya 130 ribu rupiah, Pak.
Oh iya, ini uangnya.
Uangnya 200 ribu ya, Pak?
Iya.
Ini kembaliannya 70 ribu rupiah.
Terima kasih.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Thank you.
sekali lagi. Oh, jangan kau pergi, tinggalkan aku yang tak bisa menanti dan berharap kembali. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak pernah bisa lepas darimu. Ku ingin kau ada di sini sekali lagi, sekali lagi. Oh, jangan kau pergi, tinggalkan aku yang tak bisa menanti dan berharap kembali. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak pernah bisa lepas darimu. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak pernah bisa lepas darimu.
Voice of Indonesia.
Habis sudah cinta ini, tak lagi akan tetap di sini bila habis saja.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Surat Cinta untuk Starla » chantée par Virgun. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Magazine musical ce soir avec moi, Tiwi, qui va vous présenter les informations et la chanson de Keroncong intitulée Bandar Jakarta. Chers auditeurs, Bandar Jakarta est une chanson originale de Keroncong qui raconte de la ville de Jakarta. Ce n'est pas sur la splendeur d'une ville métropolitaine, mais c'est sur l'autre côté de la ville de Jakarta. Cette chanson illustre la beauté de l'atmosphère de la côte de Jakarta protégée par un millier d'îles. Les vents qui soufflent, les bateaux de pêche et les oiseaux qui veulent rentrer chez eux. Voilà la beauté naturelle de la côte de Jakarta au crépuscule. Bandar Jakarta a été très bien chanté par Sumiati, dont le message de l'auteur-compositeur a bien été transmis. Sumiati est une sœur du chanteur Mus Mulyadi qui avait auparavant travaillé comme chanteuse de Keroncong aux Pays-Bas. Elle est rentrée en Indonésie au moment de la mort de Bung Karno, premier président de l'Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Sumiati dont le titre est Bandar Jakarta. Bonne écoute!
Thank you.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.